As-tu entendu la dernière nouvelle?
L'Insider Hockey. Aux quatre coins de la ligue, tout le monde lui parle. Puis il fait parler tout le monde.
The one, the only.
L'Insider Hockey. Renaud Lavoie.
Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume.
Voilà le choix de Renaud Lavoie pour sa toune d'entrée ce soir au Centre Bell. Est-ce que c'est ce qui retentira à un moment donné? Les étoiles filantes des Cowboys fringants. Comment ça va, mon Ren?
Hey, salut, Ren. Comment ça va?
Ça va bien. Ça va super bien, Ben. Ça va bien, Fix. Ça va bien, Greg.
Hey, t'avais l'air à entendre la chanson, c'est-tu moi? Ou tu
ben
l'entendais?
Oui, je l'entendais super bien.
OK, mais là, je pense qu'on a trouvé c'était quoi la problématique.
On l'a trouvé.
Faut qu'elle passe dans le win.
Okay. C'est fait.
Merci, Ren.
Une autre affaire de régler, comme on dit.
Grâce à toi!
Ben, passe deux minutes à me dire « Là, arrête de parler que ça va pas passer en onde, là! »
Mais non, mais là, c'est parce que je voyais Renaud avoir du plaisir à entendre sa chanson.
Je sais, je trouve ça magnifique.
Ben oui, non. Les étoiles filantes, hein, des Cowboys flingants.
Un classique.
Puis, oui, si j'avais ce privilège-là de sauter sur la glace avec ma propre chanson, ce serait cette chanson-là. Je trouve tellement qu'elle est parfaite. Un grand classique québécois en plus. Donc, j'ai hâte de voir le choix des joueurs aujourd'hui. Je me rappelle qu'à l'époque de Guillaume Latendresse, quand il jouait pour les Canadiens, Guillaume, ça m'avait pas surpris de Guillaume, mais quand même, lui me disait qu'avant les matchs de hockey, il écoutait toujours de la musique et c'était 100% de la musique québécoise qu'il écoutait, Guillaume, lorsqu'il jouait pour les Canadiens. Puis, ça m'avait impressionné parce que je me disais, tabarouette, je suis convaincu que pour se préparer pour un match, c'est pas le choix numéro un, là, on s'entend. Mais lui avait trouvé des façons justement de trouver les chansons qu'il aimait pour se motiver pour une rencontre.
Renaud, avant de te faire réagir à la signature de Jeff Gorton et Kent Hughes, on rappelle que dans 25 minutes, on aura notre propre cérémonie d'ouverture. Là, on va vous donner un avant-goût de ce qui va se faire ce soir. Et vous n'êtes pas prêts à ça. On a fait aller le téléphone partout à Montréal. Et il y avait bel et bien un deuxième finaliste à notre concours de Vegas. Parce que Guillaume Leduc, on vous le dit, nous a rappelé. Là. FX vient de raccrocher avec. Il a eu la chance de parler à Ben Roger, ce qui en soi est un plus gros prix que d'aller à Vegas. Le deuxième finaliste est Éric Goupil. Éric Goupil, tu as maintenant 9 minutes 19 secondes pour nous appeler au
514-790-0919.
Les signatures de Jeff Gorton et Kent Hughes, Renaud, est-ce que ça te rend plus heureux en soi que le contrat de l'Inotum?
Ben écoute, il n'y a rien qui me... Je veux dire, c'est juste des bonnes nouvelles, on s'entend là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même Kent Hughes qui repêche l'Inotum en deuxième ronde. Alors que l'Inotum, personne ne veut le repêcher. Puis aujourd'hui, si on refait ce repêchage-là, c'est le repêchage de Juraj Slafkovský aussi, ne l'oublions pas. On place où Lane Hudson? En tout cas, il rentre dans le top 5, je peux vous le garantir, sinon dans le top 2.
Top 2.
C'est top 2 officiel. Et c'est tout en l'honneur, un des Canadiens, mais aussi, évidemment, de Lane Hudson, là, parce que d'être repêché, c'est une chose. De jouer par la suite comme il le fait présentement, c'en est une autre. Puis il n'y a pas beaucoup de jeunes joueurs qui sont capables de se vanter de ça. Maintenant, je pense qu'on a attendu la signature de Lane Hudson pour annoncer la signature et la prolongation de contrat pour Kent Hughes et Jeff Gorton. Puis c'est tout à fait logique. Là, on ne pense pas que ça serait été une bonne idée, si vous voulez, d'y aller de cette annonce-là sans qu'on ait réglé le plus gros dossier. Celui de Lane Hudson. Et maintenant, bien, la suite des choses va être intéressante. C'est déjà, je voyais certains de mes collègues écrire là, les vrais défis commencent. Moi, je pense que les vrais défis pour ces deux gars-là ont commencé la journée qu'ils ont mis les souliers pour la première fois dans le Centre Bell, qui ont compris c'était quoi le Centre Bell, parce que n'oubliez pas que lorsqu'ils sont arrivés, on était en pleine pandémie. En tout cas, au Québec, on était encore dedans. Ailleurs, dans le monde, non. Mais au Québec, écoute, c'est sûr qu'on était encore dedans. Il y avait personne dans les gradins. L'équipe n'allait nulle part. Et le sentiment d'urgence a commencé, selon moi, à ce moment-là, qu'il fallait absolument aider cette franchise qui n'allait tout simplement nulle part. Et depuis ce temps-là, la progression, l'arrivée des jeunes, l'arrivée d'Adam Nicholas, qui a vraiment changé, transformé aussi avec Martin Saint-Louis, son groupe d'entraîneurs, qui a changé la façon de travailler, je vous dirais, sur une patinoire lors des entraînements. Puis ça fait en sorte que cette équipe-là, maintenant, elle est redoutable. Et écoute, je me rappelle quand Kent est arrivé en le 18 janvier 2022, là, ça allait pas très, très bien, là. Vraiment pas pantoute. Puis un des premiers matchs que, malheureusement pour Kent, qui a assisté ici au Centre Bell, c'est lorsque Zach Cassin a décidé de frapper Samuel Montembeau derrière le filet, puis qu'il n'y a eu aucune réaction des coéquipiers. Tu voyais jusqu'à quel point là ce club-là était dans le trouble. Puis regarde, aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, tabarouette, c'est un méchant revirement de situation. C'est pour ça que moi, je ne crois pas qu'il y a un sentiment d'urgence aujourd'hui. Il y en a toujours un, là, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'espère de ce groupe-là, c'est qu'on va garder le bateau à flot. Et je vous dirais qu'avec un gars comme Martin Saint-Louis comme coach, garde le bateau à flot, continue de voir ce noyau-là grandir, ajoute au noyau les Noah Dobson, les Zachary Bolduc, comme tu l'as fait, mais commence pas à faire les erreurs du passé. « Ah, moi, tel joueur, je suis plus capable, je le veux plus. Ah, moi Max Pacioretty, je le veux plus. Ah, moi, Piqué Souban, je suis plus capable. Hey, man, relax, là. » Puis je sais que Ken puis Jeff ne sont pas comme ça, là. Mais à quelque part, là, laisse les choses aller, laisse les joueurs travailler, laisse les coachs travailler. Je te garantis que le succès, là, le vrai succès s'en vient.
Succès que, d'ailleurs, l'Avalanche du Colorado a connu et connaît toujours. Début de saison incroyable, surtout du duo.
Contre les Sabres, oui, ça se peut qu'il y ait un début de saison incroyable. Non, mais continue.
Ouais, ils n'ont pas juste battu les Sabres, le Ren.
Non, je sais. Continue.
Surtout du duo McKinnon-Nechas. Mais oui. Écoute, tout n'est pas au beau fixe. Tu nous avais parlé avant le début de la saison d'un certain malaise au Colorado, peut-être dans le vestiaire. Et écoute, peut-être qu'il y a un peu de frustration que Nathan McKinnon a laissé sortir sur les partisans.
Fin de semaine passée, il y a eu des avantages numériques de l'Avalanche, puis on n'a pas hésité du côté des partisans de l'équipe. Je vous rappelle qu'ils ont gagné une Coupe Stanley il y a 3 ans. Ils n'ont pas hésité à huer l'avantage numérique de l'Avalanche. Et là, ce que Nathan McKinnon a dit, c'est genre, je pense que nos partisans ne comprennent pas c'est quoi un avantage numérique. Ils ne connaissent pas le hockey. Écoute, l'Avalanche, ce n'est pas une équipe qui est arrivée il y a 5 ans. Là. Elle est arrivée en 1996. C'est les Nordiques qui ont déménagé au Colorado, à Denver. Et toi, en réalité, oui, tu as un bon début de saison, mais en réalité, ce commentaire-là te prouve qu'il y a un élément de frustration. C'est quelqu'un d'important, Nathan McKinnon, dans cette organisation. Je sais que ce n'est pas quelqu'un qui est facile. Quand je dis facile, c'est que c'est un coéquipier qui est très exigeant. Il est exigeant d'abord et avant tout envers lui-même. Je le regarde la façon dont il a marqué ses buts hier à Buffalo. Tu vois que c'est un gars qui travaille très, très fort pour réussir. Il est aussi exigeant envers ses coéquipiers, envers son organisation, sans aucun doute. Mais un gars comme ça, s'il fait des commentaires de ce genre, ça a un impact sur l'organisation, ça a un impact sur les partisans, évidemment, parce que là, il est en train de dire à ceux qui payent son salaire, écoutez, là, vous n'avez pas l'air à comprendre ce qui se passe. J'ai hâte de voir la suite des choses. Tu sais, c'est le début de la saison. Il y a une semaine, même pas encore une semaine de passé depuis le début de la saison. Puis, tu vois déjà des petits accrochages. L'Avalanche, c'est tout un club d'hockey. Nekat, c'est un joueur exceptionnel. Nathan, c'est top 3 dans la Ligue nationale. Mais
ils ont 2 des 3 meilleurs joueurs de la Ligue nationale.
Ils ont le meilleur défenseur de la Ligue.
C'est pas compliqué, là. Et les fans connaissent leur hockey là-bas, c'est ça. Alors, t'es allé combien de fois à Denver, Renaud? J'étais allé une fois, puis j'ai compris que là-bas, ils connaissent leur sport là-bas.
C'est naturel. C'est naturel. T'es dans les montagnes. C'est des gens qui aiment les sports d'hiver. Il ne faut pas oublier que l'Avalanche est arrivée en 96, mais il y avait aussi les Rockies du Colorado qui ont joué là. Donc, la culture du hockey existe depuis longtemps. Je m'imagine, moi, après une rencontre, Nick Suzuki dire, je pense pas que nos partisans connaissent très, très bien ce qui se passe en avantage numérique. Ça passe pas au conseil, là. On se rend en ligne ouverte, écoute, 24 heures sur 24 avec ce dossier-là, en disant que c'est quel commentaire désobligeant. Quand ça se passe au Colorado, c'est sûr que nous, on regarde ça de loin. On se dit, bah, c'est pas grave. Mais oui, c'est grave. Dans le marché, là-bas, c'est grave. Puis, ça prouve, donc, mon point du camp d'entraînement, il y a quelque chose qui se passe là-bas, il y a un niveau de frustration là-bas. C'est difficile de mettre le doigt sur le bobo, là, de dire c'est à cause de ça précisément, mais c'est un drôle de commentaire.
Ouais, ouais, ça reste une des meilleures équipes dans la Ligue nationale quand même, là, quand tu regardes ça sur papier. Là, peu importe ce qu'on va dire. Là.
Puis avant le début de la saison, on se demandait aussi ce qu'on allait faire avec Nechas. Il y avait déjà des rumeurs suite au fiasco de la transaction Rantanen. Là, on regarde ça après le début de la saison, on se dit, écoute, ce duo-là, peut-être que Nechas va vouloir rester au Colorado puis qu'on voudra pas défaire ça. Là.
Mais, et peut-être, tu sais, quand on dit c'est difficile de toucher au bobo, on voulait pas donner 12 millions à Rantanen ou 13 millions à Rantanen. OK? Nechas, là, il va pas demander 5 millions par année. Là.
Non, il va demander autant.
Ben, voilà. Peut-être qu'on connaît déjà la suite. Peut-être que le vestiaire n'est pas rassuré. Peut-être que le vestiaire se dit, est-ce qu'on va revivre la même chose qu'on a vécu, nous, il y a la saison dernière? Ça a été catastrophique comme décision d'Avalanche Colorado. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Maintenant, on a réparé d'une certaine façon avec l'arrivée de Nechas, mais ça reste que ce gars-là doit rester avec l'Avalanche, doit faire partie intégrante des succès de l'organisation, pas cette année. Pour les 10 prochaines, ben, on peut pas se rendre à 10 ans, mais au moins pour les 8 prochaines saisons.
Certains
aussi longtemps qu'on est capable de signer des contrats de 8 ans.
Salut mon Rainbow, match ce soir.
Salut les gars.
Salut mon chum. Bye bye.